Il est 22h et vous écoutez Europe 1. C'est l'heure du journal, Stéphane Place.
Tout d'abord, ça a été un choc. Mais c'est vrai que le bac nous angoissait énormément s'il avait été maintenu normalement.
Le bac 2020 ne ressemblera à aucun autre, pas d'épreuve écrite ou orale habituelle, une validation uniquement sur la base du contrôle continu. Dans un instant, les explications détaillées de Virginie Salmen.
Il n'y aura aucun relâchement si cela permet de sauver des vies.
Pas question de partir en vacances en plein confinement, c'est le rappel ferme du ministre de l'Intérieur. 160 000 policiers et gendarmes sont déployés partout dans le pays pour vérifier les attestations de déplacement. Les excuses du préfet de police de Paris. Ce matin, il faisait le lien entre ceux qui n'ont pas respecté le confinement au début et les hospitalisations en réanimation. Déclaration qui a suscité des réactions indignées, en particulier chez les soignants. Nous ne sommes pas du tout encore au sommet de la vague, c'est ce qu'indique le directeur général de la Santé. Depuis le début de l'épidémie, le coronavirus a tué plus de 6000 personnes en France, dont 1416 en EHPAD.
Le soleil sortira à peine.
La musique, les artistes connus ne sont pas les seuls à faire le show sur les réseaux sociaux. Lionel Gougelot nous fera découvrir les Voici Voilà dans le nord de la France. Et puis, comme tous les soirs, l'invité écho, Carole Ferry reçoit Pierre Lassara, directeur général d'Hapital et Opti Soins, une application précieuse pour les personnels des hôpitaux de Paris. Sans oublier dans ce journal, top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com et la météo complète d'Anissa Haddadi.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est l'annonce du jour, une formule inédite pour valider les examens de fin d'année. Elle concerne un peu plus de 2 millions d'élèves en tout, collégiens et lycéens. On va détailler l'impact de cette décision qui s'applique notamment aux candidats du baccalauréat. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a tranché pour le bac 2020 cette année. C'est le contrôle continu. Autrement dit, Virginie Salmen, les notes récoltées tout au long de l'année, c'est celles-ci qui vont compter, c'est bien ça?
Oui, une solution qui permet aux élèves et leurs familles d'être fixés. Donc ce sera du 100% contrôle continu pour les candidats au bac général, technologique et professionnel. Les notes des trois trimestres de terminale vont être prises en compte, sauf celles obtenues pendant le confinement. Ensuite, c'est un jury d'harmonisation qui examinera le livret scolaire de chaque candidat et arrêtera les notes définitives pour s'assurer que les critères sont les mêmes partout en France. Attention, l'assiduité jusqu'à la fin du troisième trimestre sera une condition sine qua non cette année pour décrocher le bac. Il y aura quand même un rattrapage et une session de septembre. Pour les élèves de première, l'oral du bac de français est maintenu. Ce sera fin juin ou début juillet avec un peu moins de textes à étudier, 15 en filière générale. Mais en revanche, pas d'épreuve écrite. Et la session 2-3C prévue en mai est annulée, remplacée par du contrôle continu.
Bon, voilà pour le bac. Pour les autres examens, on pense notamment au brevet. Pour les élèves de 3e, ça va se passer comment ?
Alors c'est le même scénario pour le brevet, contrôle continu avec en plus un contrôle d'assiduité des candidats jusqu'au 4 juillet, sinon le brevet ne sera pas validé non plus. Contrôle continu aussi pour les BTS, pour les BEP et CAP avec un jury qui examinera le livret scolaire. Et pour les autres, les élèves qui n'ont pas d'épreuves prévues, les 6e, 5e, 4e et 2e, attention, il y aura plus de cours que d'habitude, a prévenu le ministre, puisque les établissements ne sont pas réquisitionnés pour les examens, donc ils auront vraiment cours jusqu'au 4 juillet. À l'école ou à la maison, ça c'est l'inconnu qui subsiste. Les élèves pourront-ils finir leur année en classe ?
Virginie Salmen, la spécialiste éducation de la rédaction d'Europe 1. Soulagement ou frustration, le sentiment peut varier d'un élève à un autre ce soir. Mais en tout cas, aucun d'eux ne planchera donc sur des épreuves écrites spécifiques du bac cette année. Romain Oquet a recueilli pour Europe 1 la réaction de lycéens qui ont découvert aujourd'hui cette décision.
Tout d'abord, ça a été un choc. Mais c'est vrai que le bac nous angoissait énormément s'il avait été maintenu normalement. Donc c'est finalement une bonne surprise et une bonne chose pour tout le monde que ce bac soit fait en contrôle continu et c'est beaucoup plus équitable en fait.
J'aurais aimé peut-être une épreuve finale pour déjà concrétiser l'année, dire qu'on n'a pas travaillé pendant 3 ans pour rien, pour pas passer d'examen et pour viser une mention plus haute. Je sais que j'aurais mention bien, mais j'aurais visé la mention très bien, peut-être que je l'aurais pas.
Moi, ça me fait très très peur parce que mes notes n'ont pas été géniales
à cause de certains problèmes de santé et familiaux. Donc, ça m'inquiète, quoi. Je suis dans le flou. Je suis totalement déçue, quoi.
Des lycéens qui réagissent à la décision donc du ministre de l'Éducation nationale au micro Europe 1 de Romane Hoquet. Marche arrière toute, un rétropédalage du préfet de police de Paris dont les propos ont choqué aujourd'hui. Didier Lallement a créé la polémique en expliquant que les patients hospitalisés, ce sont ceux qui au début du confinement ne l'ont pas respecté. Et il y a une corrélation très simple, avait souligné le haut fonctionnaire en début de journée. Une déclaration qui a provoqué de vives réactions dans la classe politique, chez les soignants aussi. Le patron du SAMU de Seine-Saint-Denis a carrément réclamé la démission du préfet, Didier Lallement, qui a fait son mea culpa cet après-midi.
Au-delà de l'inexactitude, c'est une erreur et je la regrette à plusieurs titres. D'abord, parce que je sais avoir heurté de nombreuses personnes qui ont des proches en réanimation à l'hôpital ou qui ont perdu récemment un des leurs. Ensuite, parce que j'ai pu donner le sentiment que je n'étais pas pleinement conscient du fait que nombre de nos concitoyens ont été ou sont encore exposés à cette maladie. C'est enfin une erreur, parce que ces propos troublent le message d'unité, de solidarité et de fraternité dans l'épreuve. Je regrette d'avoir tenu ces propos et je présente mes excuses à tous ceux que j'ai pu ainsi heurter.
Les excuses de Didier Lallement, le préfet de police de Paris. Docteur Jimmy Mohamed, vous êtes le médecin d'Europe 1. Ce lien que regrette maintenant d'avoir établi le préfet de police de Paris, on vient de l'entendre, entre ceux qui sont sortis au début du confinement et ceux qui se retrouvent malheureusement en réanimation aujourd'hui, est-ce qu'il peut de toute façon reposer sur un quelconque fondement médical ?
Alors c'est absolument faux, je pense qu'il faut laisser la médecine aux médecins, je pense qu'il n'était pas dans son rôle de donner son avis sur cette question médicale, d'autant plus que il ne faut pas oublier que nous avons donc une période d'incubation de 14 jours de la maladie et que une fois que nous sommes malades, les dégradations surviennent entre le 5e et le 10e jour, ce qui veut donc dire que les effets du confinement, on va commencer peut-être à les sentir, mais que certains malades vont encore se dégrader dans quelques jours, et puis il ne faut pas oublier que certaines personnes doivent travailler, doivent prendre des transports en commun, doivent faire des courses, peut-être aider des personnes. Et puis, mine de rien, on a aussi les élections municipales où les gens sont sortis. Donc il y avait un tas de raisons de tomber malade. Et je ne pense qu'on ne peut pas culpabiliser les gens de la même façon qu'on ne dit pas aux fumeurs « vous avez un cancer du poumon, c'est de votre faute ». Donc les excuses étaient méritées, étaient nécessaires. Et on ne peut pas se contenter de cette affirmation qui est absolument fausse.
L'éclairage du docteur Jimmy Mohamed que vous retrouvez tous les après-midi sur Europe 1 à 15h avec Mélanie Gomez pour l'émission « Sans rendez-vous ». Pas question de partir pour les vacances de printemps, vacances qui débutent ce soir pour la zone C, confinement oblige, plus de 160 000 policiers et gendarmes sont sur le pont pour effectuer des contrôles, dispositif exceptionnel déployé aussi la semaine prochaine, a insisté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.
Aujourd'hui, il y a eu des contrôles partout. Ces contrôles se poursuivront. Ils se poursuivront cette nuit, samedi, dimanche et dans la nuit de samedi à dimanche. Ils se poursuivront en gare. Ils se poursuivront sur les autoroutes, sur les routes. Ils se poursuivront aussi sur les lieux de vacances, partout. Nous devons combattre le virus. Et si nous aimons ces membres de famille auprès desquels nous aurions aimé aller, il faut les protéger. Et les protéger, c'est assumer le confinement. Et je le dis, il n'y aura aucun relâchement si cela permet de sauver des vies. Le message est clair. Ceux que l'on aime, on les protège. Et pour les protéger, on se confine. Nous serons présents tout le week-end pour vérifier cela, partout où cela sera nécessaire.
Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Rester chez soi, ne pas se déplacer pour enrayer la propagation du coronavirus qui a tué en France plus de 6000 personnes depuis le début de l'épidémie, comme l'a indiqué le directeur général de la Santé ce soir, Jérôme Salomon.
En additionnant les décès survenus en milieu hospitalier depuis le début de l'épidémie et ceux rapportés par les établissements médico-sociaux, nous déplorons donc ce soir 6507 décès. Nous devons donc tous respecter les consignes de confinement actuellement en vigueur, surtout en cette période de vacances qui débute. Ce n'est qu'en limitant drastiquement ces déplacements et en évitant absolument les déplacements longue distance que nous arriverons tous à protéger nos proches. Ce soir plus que jamais, restez chez vous si vous voulez sauver des vies.
Voilà, le message est clair. Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, parti ce matin de Strasbourg avec 24 malades du coronavirus à son bord. Un TGV médicalisé est arrivé tout à l'heure, en fin de journée à Bordeaux, après un arrêt à Poitiers. Nouvelle évacuation sanitaire qui a permis de soulager les services de soins du Grand Est. Une région, on le sait, en première ligne et particulièrement touchée depuis le début de l'épidémie. Mais aujourd'hui, il y apparaît une lueur d'espoir. Arthur Mbaché, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Strasbourg. Il faut évidemment rester très prudent, mais de nouvelles données nous autorisent à faire preuve d'un peu d'optimisme.
Ce soir, ça va mieux aussi dans les services de réanimation de la région. Et ça, c'est nouveau. Le patron de l'ARS Grand Est parle de bout du tunnel. Il avait un ton cet après-midi, une façon de parler qu'on n'avait pas eu ces derniers temps, disons rassurant et optimiste. Christophe Lannelong adresse un message positif, notamment aux femmes et aux hommes qui sont sur le front, les soignants, pas forcément conscients de l'amélioration réelle de la situation.
Dans beaucoup des grands hôpitaux de la région, on est sur le fil du rasoir. Quand vous êtes dans ces hôpitaux, vous ne voyez pas forcément la fin de cette difficulté. Mais nous, franchement, les indicateurs, les modèles, les évolutions dans la réalité nous montrent que, on approche du turning point.
Alors, deux chiffres sur ce turning point, ce pic qui arrive, 30 à présent. Dans le Grand Est, vous avez 30 sorties de réanimation tous les jours. Ces derniers temps, c'était plutôt 10. Et puis, le deuxième chiffre, c'est une date, 10 avril, date possible du pic épidémique dans la région. Un des modèles mathématiques utilisés par les autorités donne ce résultat du 10 avril. C'est le plus optimiste. Ce sera peut-être plus, mais c'est une hypothèse sérieuse. Bien sûr, il faut rester prudent, dit l'ARS ce soir. Bien sûr, il faut encore évacuer massivement des malades parce que les services de réa sont saturés. Bien sûr, il y a encore une dizaine de jours d'efforts considérables.
Arthur Mbaché, le correspondant d'Europe 1 dans l'Est de la France. Et au cours des trois derniers jours, 163 malades du coronavirus ont été évacués d'Île-de-France. L'Agence régionale de santé entend poursuivre ces transferts durant le week-end, mais à un rythme moins soutenu, dit l'ARS.
Europe 1, le journal de la nuit.
C'est une information Europe 1. Pour faire face à l'éventuelle pénurie de médicaments, les soignants pointent ce risque depuis quelques jours, en particulier dans les services de réanimation. L'État vient d'autoriser l'utilisation de certains produits vétérinaires, notamment des anesthésiants. Jean-Rémy Baudot, c'est vous qui nous l'apprenez. Un décret a été publié ce matin.
Oui, c'est Édouard Philippe qui a autorisé la prescription de certaines molécules vétérinaires, des médicaments appelés Proposur ou Propovet, qui sont les équivalents du Propofol. Voilà pour les noms techniques, mais c'est ce qui est utilisé pour les humains pour la sédation. C'est un anesthésique. Le décret permet donc l'utilisation de ces médicaments à des doses adaptées pour les hommes, mais le texte permet surtout la réquisition des stocks chez les vétérinaires. Cet apport de nouvelles molécules va permettre de traiter quelques centaines de patients, explique l'agence du médicament. Un rapport d'analyse a été fait. Il n'y a pas de risque, précise l'ANSM, qui promet tout de même une surveillance d'éventuels effets indésirables. L'enjeu, il est sanitaire face à la crise, bien évidemment, mais il est aussi industriel. Certaines usines dédiées aux produits vétérinaires pourraient ainsi être mobilisées. Franchement, on est dans une médecine de guerre, reconnaît un responsable de l'industrie pharmaceutique à qui j'ai pu parler. On ne pensait pas en arriver là, glisse un membre du gouvernement.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Sur le plan économique en France, désormais, ce sont 5 millions de salariés qui sont au chômage partiel. Après presque 3 semaines de confinement, plus de 400 000 entreprises, un quart du secteur privé, ont recours à ce dispositif. Une précision apportée ce soir par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Son collègue en charge des comptes publics, Gérald Darmanin, a assuré aujourd'hui que la sortie de crise ne passerait pas par une augmentation d'impôts. Le ministre a également annoncé que le report des charges sociales et fiscales pour les entreprises serait également possible en avril. Ce soir, en Europe, on estime que la pandémie a tué plus de 40 000 personnes, dont plus des trois quarts en Italie, en Espagne et en France. En Grande-Bretagne, et c'est un signe de la gravité de la situation, ce n'est arrivé que pour des circonstances exceptionnelles, depuis 4 fois depuis le début de son règne d'ailleurs, la reine Elisabeth II s'adressera à ces sujets dimanche soir. Le Royaume-Uni, qui a enregistré 684 décès supplémentaires provoqués par le Covid-19 en une journée. Dans le centre de Londres, Rémi Bossaron, on a ouvert aujourd'hui un immense hôpital de campagne construit en 9 jours par l'armée et pouvant atteindre 4 000 lits.
Oui, c'est un hôpital installé en 9 jours seulement par l'armée dans un centre de conférence de la capitale britannique. Pour l'instant, sa capacité n'est que de 500 lits, mais elle sera au final de 4000 lits, c'est-à-dire l'équivalent de 10 hôpitaux classiques, et ce sont 16 000 soignants qui devraient y travailler. Cet hôpital est une lumière éclatante dans ces temps sombres, ce sont les mots du prince Charles qui assistait à l'inauguration par vidéoconférence, des mots qui soulignent l'effort produit en ce moment par les autorités britanniques pour répondre aux critiques suscitées par leur gestion de la crise. Des hôpitaux de campagne, elles ont prévu d'en ouvrir aussi dans le nord, dans le centre et dans l'ouest de l'Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles également. Mais le personnel soignant dénonce toujours le manque d'équipement de protection et le dépistage trop limité. Le ministre de la Santé a promis de multiplier le nombre de tests par 10 pour atteindre 100 000 tests par jour d'ici à la fin avril. L'objectif, c'est de dépister massivement les soignants pour pouvoir faire travailler tous ceux dont il est sûr qu'ils ne sont pas porteurs du virus.
Merci Rémi Bossaon. Quant au Premier ministre britannique Boris Johnson, testé positif au Covid-19 cette semaine, il a décidé aujourd'hui de prolonger sa quarantaine en attendant de ne plus souffrir des symptômes. Après 3 tests négatifs, Angela Merkel, elle, est sortie aujourd'hui de sa quarantaine de 14 jours passée chez elle. La chancelière allemande est retournée à son bureau mais continuera à diriger le pays par audio et visioconférence. L'Allemagne, où les mesures de restriction, de déplacement et de rassemblement commencent à produire des effets ces derniers jours, les épidémiologistes allemands constatent qu'une personne porteuse du virus ne contamine en moyenne plus qu'une autre personne, contre 5 à 7 ces dernières semaines. Devant la résurgence du virus, Singapour se résout à fermer écoles et entreprises. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre de la ville-État, qui avait pourtant réussi à contenir l'épidémie en traçant les cas, mais la hausse du nombre d'infections ces derniers jours a donc poussé les autorités à demander aux habitants de rester chez eux. Conséquence directe de la pandémie, plus de 700 000 emplois détruits aux États-Unis en mars. Ce n'était pas arrivé depuis près de 10 ans. Le taux de chômage bondit à 4,4%. Dans ce contexte, garder le sourire et le moral, il faut bien l'avouer, ce n'est pas simple. Heureusement, il y a des initiatives qui nous donnent un peu de baume au cœur. Les concerts improvisés sur les réseaux sociaux, par exemple, des artistes connus depuis leur salon, mais aussi des anonymes qui s'y mettent, comme les Voici, Voilà. C'est le nom de ces choristes de Wascal. Lionel Gougelot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Les Voici, Voilà ne peuvent pas se produire en concert. Alors chaque semaine, eh bien, ils enregistrent une chanson.
Ils sont 40 chanteurs réunis dans la mosaïque. Ils ont chacun enregistré leur voix sur la musique de Caroline Behm, leur chef de chœur. 40 voix mixées pour être diffusées sur YouTube. Une façon de garder la cohésion de la chorale malgré l'éloignement.
On s'est dit qu'on allait continuer à faire ce genre de vidéos pour continuer à travailler à la maison malgré le confinement, mais aussi pour conserver cette motivation, cette émulation et puis ce défi numérique pour certains de se faire une vidéo tout simplement et de l'envoyer.
Plusieurs milliers de vues pour cette reprise d'une chanson de Francis Cabrel mise en ligne la semaine dernière. Une audience que nous n'avions jamais atteinte, s'amuse la chef de chœur.
Alors oui, on a une audience beaucoup plus large que d'habitude. Nous sommes une chorale qui est implantée sur Wascal, dans le Nord. Et là, on se rend compte qu'on rayonne un peu partout, en France en tout cas.
Mais si l'expérience est originale, cela ne remplace pas la chaleur des répétitions et l'effervescence des concerts.
On a hâte de se retrouver en chair et en os pour chanter ensemble. C'est quand même pas la même chose. Et oui, on a hâte de se revoir. Maintenant, on a un spectacle à préparer pour mi-octobre, donc on a beaucoup de choses à rattraper. Et voilà, mais bon, on fait ce qu'on peut.
Vous permettez, monsieur.
Ce soir, une nouvelle chanson est mise en ligne. Ce sera comme ça tous les vendredis, le temps du confinement.
Voici, voilà, reportage de Lionel Gougelot, le correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Et puis, c'est peut-être une idée pour vous détendre ce week-end, malgré tout, à défaut de pouvoir vous y rendre, c'est en passant par le site internet du Louvre que vous pouvez découvrir les œuvres. Le Louvre.fr a vu sa fréquentation passer de 40 000 à 400 000 visites virtuelles par jour. Il faut dire que le site internet du musée multiplie les offres de conférences filmées, les dessins animés et les podcasts. On jette à présent un œil sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. La journée commencera sous les nuages demain.
Oui, effectivement, Stéphane, avec sur la Picardie, la baie de Somme, la Bretagne, le centre-val de Loire, la Bourgogne et les Ardennes, des brumes et des brouillards assez épais hein, demain matin. Sur les régions qui sont au nord de la Loire, la matinée est assez couverte. Alors, les brouillards vont se dissiper au fil des heures, mais ça sera pour laisser place à des nuages, donc ça sera pas beaucoup mieux. Les nuages se dissipent à la mi-journée et là, c'est le grand soleil qui arrive. Demain après-midi, il fait beau partout, sans exception, le soleil brille avec sur les Hauts-de-France, le Grand Est et les Alpes du Sud encore quelques tout petits nuages d'altitude, mais rien de très inquiétant. Et sur les côtes bretonnes et les côtes de la Corse, là, c'est le vent qui souffle. Les températures, nous aurons encore quelques gelées demain matin sur le Nord-Est, le Centre-Est et la Dordogne. Partout ailleurs, nous aurons entre 1 et 5 degrés jusqu'à 8 sur la côte atlantique. Et puis dans l'après-midi, là, les températures sont vraiment en hausse avec ce soleil qui brille. 14 à Dunkerque, 16 à Quimper, Metz et Lille, 17 pour Strasbourg et Guéret, 18 à Marseille, Clermont-Ferrand et Paris. 18 à Paris, c'est pas mal, hein ? Et 23 à Biarritz.
18 à Paris, 23 à Biarritz. C'était la météo signée Anissa Haddadi. Merci Anissa.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Juste avant, l'invité écho de Carole Ferry qui reçoit ce soir Pierre Lassara, directeur général d'Apital et aux petits soins. A tout de suite sur Europe 1. Et comme tous les soirs, c'est l'heure de Top à Wall Street avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir. Claire, Wall Street.
Bonsoir Stéphane.
On le disait, Claire, Wall Street broie du noir ce soir. On l'a compris dans le journal, on comprend pourquoi hein, quand on voit les chiffres du chômage aux États-Unis. Et c'est bien entendu tout ça à cause du coronavirus.
Oui, Wall Street déprime. Le Dow Jones repère 1,69%, 21 052 points. Le Nasdaq, lui, cède 1,53%, 7 373 points. C'est effectivement le chômage qui inquiète aux États-Unis. Plus de 700 000 emplois détruits au mois de mars à cause des mesures de confinement et de la fermeture des entreprises. Un chiffre d'autant plus inquiétant que l'épidémie progresse très vite dans le pays. Le pétrole, lui, continue de grimper dans l'espoir d'une trêve dans la guerre des prix du brut, une trêve entre la Russie et l'Arabie Saoudite, le WTI gagne encore 13% ce soir. Du côté des valeurs, 3M perd 3%. Donald Trump a reproché au groupe de ne pas produire suffisamment de masques de protection pour le marché américain. Tesla monte de 5,7%. Le constructeur de véhicules électriques est très en avance sur le calendrier de production et de livraison de son SUV modèle Y. Du côté des devises, l'euro perd 0,3% à 1,0821.
Et la fin de semaine a été difficile aussi pour le marché parisien, sous le poids également du coronavirus.
Oui, le CAC 40 perd encore 1,6%, 4154 points. C'est du rouge aussi sur la semaine, avec une perte de 4,5% sur les 5 dernières séances. À Paris, la baisse se poursuit pour les bancaires. Société Générale plonge de 8%, Crédit Agricole moins 3,8%, Natixis chute encore de 20%. Et puis BNP Paribas a renoncé à son tour, comme les autres grandes banques françaises, à verser un dividende. Décision sous la pression de la BCE pour mieux lutter contre la crise. BNP perd 5% ce soir.
Alors Claire, les grandes entreprises françaises refont leurs comptes alors qu'elles sont pénalisées par la crise sanitaire.
Oui, c'est le cas de Rémy Cointreau. Les ventes du fabricant de spiritueux ont chuté de plus d'un quart au premier trimestre à cause du Covid-19. L'action recule de 2,4% ce soir, moins 3,4% pour Accor Hôtel. Le groupe hôtelier est contraint par la pandémie de fermer les deux tiers de ses hôtels dans le monde. Il renonce aussi à verser un dividende. Les marchés européens dépriment en cette fin de semaine. Londres perd 1,2%, Francfort moins 0,5%, moins 2,7 pour Milan. Amsterdam perd 1,5% et pour le CAC 40, c'est un repli de 1,6% à 4154 points.
Merci pour ce tour d'horizon complet Top à Wall Street. C'était avec Claire Lemaître de boursier.com. Et c'est à présent l'heure de l'invité écho. Ce soir, Carole Ferry, vous recevez Pierre Lassara, directeur général d'Apital et aux petits soins. Aux petits soins, une application pour faciliter la vie des personnels de l'APHP, les hôpitaux de Paris, pendant cette épidémie de coronavirus.
Pierre Lasserave, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de Apital, une application de conciergerie pour les patients à l'hôpital. Vous leur proposez d'avoir un coiffeur, de leur faire livrer des sushis, etc. Mais alors évidemment, en ce moment, la situation est un peu particulière et vous venez justement de lancer une autre application plus adaptée à la situation, aux petits soins. Vous pouvez nous dire en quoi ça consiste exactement ?
Alors, le travail d'Apital, en fait, il est un petit peu plus large que ça. On s'occupe bien évidemment de la conciergerie, comme vous venez de le dire, mais plus globalement, on s'occupe de l'accompagnement du patient sur tout son parcours, qu'il soit administratif ou hôtelier, avant, pendant, après l'hôpital. On s'occupe de sa préadmission en ligne, de recueillir ses demandes de chambre individuelle, de l'accueillir sur site, mais aussi de l'accompagner sur son retour à domicile. Donc, c'est un accompagnement global qu'on fournit. Ce travail-là, il est un petit peu mis entre parenthèses, vous avez raison. Et aujourd'hui, les établissements de santé nous ont demandé de recentrer notre énergie au service des professionnels, des personnels qui sont en première ligne et de pouvoir leur proposer des services qui leur facilitent le quotidien et leur permettent de se concentrer sur leur mission encore plus que d'habitude.
Donc très concrètement, ça concerne qui et vous leur proposez quoi ? Donc,
ça concerne les personnels des établissements de santé, les soignants comme les non-soignants qui œuvrent dans le cadre de la crise du Covid-19. Ça concerne tous les corps de métier, du coup, les médecins, les infirmières, les personnels administratifs, les personnels techniques. Aujourd'hui, grâce à OptiSoins, ils peuvent accéder à un large panel de services gratuitement. C'est une application, vous dites, c'est un site internet en effet, donc il y a un accès digital, mais aussi une ligne téléphonique qui ont été mises en place par la PHP et qui sont disponibles pour les personnels des 36 établissements franciliens de la PHP. Ça représente à peu près 90 000 professionnels qui peuvent accéder du coup gratuitement à un ensemble de services très pertinents par les temps qui courent.
Qu'est-ce que vous leur proposez à ces personnels des hôpitaux ?
Dans le cadre d'OptiSoins, particulièrement ce service digital, on leur propose des services d'hébergement. Donc là, on a réussi à avoir le concours de partenaires comme Airbnb, comme la Fondation L'Adresse, comme particulier à particulier, qui ont mis à disposition des logements gratuits pour loger et héberger les personnels à proximité de leur lieu de travail. On leur propose également la livraison de courses avec des créneaux prioritaires qui ont été attribués par Monoprix ou par Carrefour notamment. On leur propose de les transporter à moindre frais avec Uber ou Captain ou même le service d'autopartage de Renault qui vient d'être lancé qui s'appelle Ziti qui met à disposition eux des Zoé gratuitement. Il y a la possibilité de se garer gratuitement dans les parkings Indigo également. Et pour tout ce qui est le temps au foyer, pour le coup, on a le soutien en foyer grâce à des services de ménage, des services de soins du linge, de garde d'enfants, mais aussi des services qui fonctionnent énormément en ce moment de soutien psychologique et de bien-être, avec notamment la possibilité d'avoir de la musicothérapie, des petites séances de musicothérapie chez Music Care, par exemple, ou un soutien psychologique avec une petite application qui s'appelle Mon Sherpa.
Les gardes à domicile, les courses, etc., ce sont le ménage, ça, c'est pas gratuit.
Alors, la plupart des prestations, en fait, sont gratuites, mais en effet, vous avez raison de dire que pour le ménage et pour la garde d'enfants, ce sont des tarifs spéciaux, avec des réductions qui sont accordées par les partenaires. Sur la garde d'enfants, il y a quand même des services qui sont offerts gratuitement par la mairie de Paris notamment, par la PHP elle-même et beaucoup de bénévoles qui se mobilisent en ce moment. Donc on a un panachage en fait de services qui correspond à tous les besoins.
Quand c'est gratuit, c'est quoi ? C'est des partenariats avec des marques ? C'est un investissement de la part de la PHP ?
Alors, quand c'est gratuit, il y a deux choses différentes. Soit c'est pris en charge par la PHP, et là, notamment sur l'hébergement, la PHP prend en charge des nuitées dans des hôtels, prend en charge au travers de son marché également. Il y a un marché public de transport avec une société de taxi, donc prend en charge ces services. Et parfois, c'est aussi offert par les marques. Je vous parlais tout à l'heure du service d'autopartage de Renault, Ziti. C'est gratuit, c'est mis à disposition gratuitement par les marques. Plus de la moitié des services sont gratuits et offerts par les marques.
À quoi ils font le plus appel dans vos services ?
Alors, les services cœur et qui avaient bien été identifiés par les équipes de Martin Hirsch, c'est d'abord l'alimentation, le transport et l'hébergement. Ça, c'est vraiment les besoins qui sont à peu près de 70% des demandes qui vont en ce sens. Et le reste, c'est sur le soutien au foyer et le bien-être. Donc aujourd'hui, c'est vraiment axé sur ces besoins clés pour pouvoir se reposer et pour pouvoir venir travailler et s'alimenter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces services qui sont parfois accessibles très difficilement. Donc, c'est la priorité de pouvoir les servir sur ces trois besoins clés.
Les logements, il y en a suffisamment ?
Alors, les logements, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a suffisamment aujourd'hui ? En tout cas, on n'a pas de retour comme quoi ce qu'on propose n'est pas suffisant. On a des partenaires qui viennent quotidiennement renforcer l'offre qu'on propose, des groupes hôteliers notamment, qui réouvrent des hôtels et qui mettent à disposition leurs chambres, en effet. Et donc c'est quelque chose qu'on peut faire en Ile-de-France et quelque chose qu'on fait aussi désormais gratuitement en fait pour d'autres établissements de santé, parce que on a une IHA, qui est la centrale d'achat de référence des hôpitaux, a référencé cette solution qui s'appelle Happy Hero. Aux petits soins, dans le cadre de la PHP, et à Piero, c'est son nom générique, qui l'a référencé et l'a mis à disposition de tous les hôpitaux publics français. Et donc ce savoir-faire, cette idée de la PHP est en train d'être mis à disposition d'autres hôpitaux publics, et qui est d'ores et déjà adopté par des hôpitaux en Vendée et un hôpital à Strasbourg depuis hier, et on continue à le déployer sur d'autres établissements publics.
Pierre Lassara, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup, excellente soirée à vous aussi.
Et merci à vous, Carole Ferré, qui receviez ce soir Pierre Lassara. Pierre Lassara. Coup d'œil rapide au quotidien qui paraissent demain avec ce titre à la une de Libération, un titre qui glace le sang. EHPAD, tragédie à huis clos. Au moins 1416 personnes âgées sont mortes dans les maisons de retraite depuis le début de l'épidémie, selon des données encore incomplètes, indique Libé. Libération qui aborde bien sûr aussi l'édition inédite du baccalauréat cette année. Pour Laurent Baudin, l'éditorialiste de l'Alsace, le recours à cette méthode d'évaluation ne faussera pas fondamentalement la donne pour les jeunes. Contrôle continu, un bac historique, c'est le titre qui barre la une de Ouest-France. À la une de l'Est éclair, c'est la peur qui s'installe dans les EHPAD et qui donc est rapportée par les témoignages des soignants qui confient leur crainte de contaminer les résidents, leur peur aussi d'être contaminés eux-mêmes. La lutte contre l'ennemi invisible tétanise la vie dans les EHPAD, expliquent nos confrères de l'Est éclair. Voilà pour notre petit tour rapide dans le kiosque à journaux.